BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Christelle Bory. Elle est la présidente d'Eramet. Je l'ai rencontrée dans le cadre, bien sûr, des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Christelle Bory, bonjour ou bonsoir, il fait encore tellement beau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, évidemment, Eramet, on sait, c'est au cœur un peu de toutes les matériaux critiques. Presque, envie de dire, de la géopolitique aujourd'hui, des questions de souveraineté. On voit évidemment ce qu'a fait la Chine il y a quelques jours. Vous-même, vous avez publié une tribune dans les Échos où vous dites « Attention, il y a un enjeu de souveraineté, il faut que l'Europe se réveille un peu et qu'on produise nous-mêmes notre propre lithium. » Parce que le lithium, on voit bien que c'est au cœur de toutes ces gigafactories qu'on est en train de construire. Mais pour l'instant, on n'a rien pour mettre dedans, du moins rien du côté européen et du côté français. Il fait une chaleur, ça vous rappelle pas la Nouvelle-Calédonie où vous êtes, Christelle Bory, là, c'est digne de cette chaleur. Plus sérieusement, est-ce qu'on aura suffisamment de lithium pour toutes ces voitures électriques qu'on veut électriques et toutes ces gigafactories qui sont en train de s'installer en Europe, en France, en Allemagne, un peu partout?
Alors, géologiquement, la réponse est oui. Il y a beaucoup de lithium sur la planète. Donc, il y a suffisamment de lithium pour alimenter la transition énergétique. Le problème est évidemment la localisation de ce lithium. Dans quelle contrée du monde va-t-il se trouver? Et il se trouve assez peu en Europe ou en France. Il y a également les conditions économiques dans lesquelles on peut l'extraire.
On va y revenir là-dessus parce que c'est un sujet qui nous déchire.
Et là, il peut y avoir des différences assez importantes, notamment en fonction de la teneur des saumures ou des minerais qui sont extraits. Et donc, ça peut faire varier le prix de façon extrêmement importante. Et puis après, il y a les conditions environnementales dans lesquelles on les extrait et qui peuvent être en fait des bloquants, des phénomènes bloquants pour pouvoir extraire certaines sources.
Oui, mais du lithium, il n'y en a pas beaucoup encore, il n'y en a pas en France, enfin on peut en avoir, on va y revenir bien sûr, il y en a un petit peu en Europe, mais il y en a ailleurs dans d'autres zones du monde. Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu de souveraineté, c'est-à-dire de dire, ben non, moi le lithium, je suis désolée, je le garde pour moi, je le garde pour mes amis, je le garde pour mon industrie, et puis je ne vous le donne pas?
Alors, comme vous le disiez très bien, et d'ailleurs ça n'est pas le cas seulement pour le lithium, le problème de tous les métaux de la transition énergétique, c'est que d'abord on va avoir besoin de beaucoup de ressources primaires, hein. On parle de recyclage, il faudra faire beaucoup de recyclage, mais le recyclage va arriver après. Il faut d'abord faire les premières batteries pour pouvoir les recycler ensuite. Donc le recyclage ne jouera qu'un rôle très très faible dans les 20 premières années. Donc il va falloir aller extraire les matières, que ce soit le lithium, le nickel ou le cobalt, là où elles sont, et il se trouve qu'elles sont assez peu sur notre continent. Ouais. Et donc effectivement, en plus, très concentré. Le nickel, les réserves sont majoritairement en Indonésie. 70% aujourd'hui des projets de nickel pour les batteries est en Indonésie. 80% de la production future va être en Indonésie. Donc on voit que si on n'a pas des accords et un partenariat avec l'Indonésie, ou on n'a pas des acteurs européens investissant en Indonésie, on peut avoir des problèmes de souveraineté. Pour le lithium dont vous parliez, plus de 60% des réserves mondiales, les deux tiers environ, sont dans un petit triangle, dit le triangle du lithium, nord du Chili, nord de l'Argentine, sud de la Bolivie. Eh bien, pareil avec ces pays. Donc, on a besoin effectivement à la fois d'avoir des acteurs économiques qui investissent dans ces pays et puis de la diplomatie économique de l'Europe et de la France pour faire des accords avec les pays en question.
Justement, c'était un peu la question que je vous posais. Vous me répondez en tant que chef d'entreprise, ça tombe bien, vous l'êtes, mais il y avait quand même un côté assez géopolitique. Est-ce qu'il y a une prise de conscience au niveau de la diplomatie française, la diplomatie européenne, qu'il faut nouer des accords, pas d'exclusivité bien sûr, mais enfin qu'il faut quand même nouer des accords?
Alors, la prise de conscience, je pense que maintenant, elle est là. Ça a été un accouchement difficile. On l'a fait plus tard que les autres régions du monde. Ça a été lié aux crises, différentes crises qu'on a connues, la crise sanitaire, la crise Russie-Ukrainienne, la crise de l'inflation aujourd'hui. On s'est aperçu qu'on avait des dépendances qui étaient insupportables. Donc, effectivement, la prise de conscience est là. Les outils ne sont pas encore là.
D'accord,
et c'est là où la Chine et les États-Unis vont plus vite, ont pris de l'avance, notamment dans le financement des projets et dans cette fameuse diplomatie économique sur lesquelles ils sont très actifs et sur lesquelles l'Europe démarre. On a le Critical Raw Material Act en Europe, on a le fonds qui se met en place en France, mais les outils démarrent juste et ne sont pas encore opérationnels. Donc, pour le moment, on n'a pas encore d'impact.
Vous avez été surprise par la décision de la Chine sur le...
Alors, c'est la récente décision sur le germanium.
Sur
et
le germanium.
Bah, écoutez, la Chine, elle joue ses cartes. C'est pas par hasard qu'elle a fait cette annonce au moment où il y avait une rencontre au plus haut niveau avec les Américains.
Yann Jalem, oui.
Absolument. Et elle a juste montré que quand elle maîtrisait sa chaîne de valeur, elle pouvait en jouer. Et qu'aujourd'hui, la plupart des métaux, même s'ils ne sont pas extraits en Chine, parce que la Chine n'est pas plus riche que l'Europe en matières premières, mais en revanche, elle a mis la main sur des mines ailleurs dans le monde et surtout, elle raffine la plupart des métaux critiques pour l'ensemble du monde.
Oui, il y a vraiment une souveraineté des matériaux critiques, en fait, qui est en train de se mettre en place.
Alors, avec la Chine qui a pris de l'avance sur l'ensemble, que ce soit les terres rares, que ce soit le nickel, que ce soit le lithium, que ce soit le cobalt, surtout, notamment la chaîne de valeur batterie, hein, où les Chinois veulent vraiment jouer un rôle important. Et pour eux, effectivement, mettre la main sur l'ensemble de la chaîne de valeur leur permet d'être extrêmement compétitifs et à la fin de faire des véhicules électriques qui sont peu chers et qui sont vendus de façon très compétitive sur nos marchés. Donc, ça les aide à avoir une chaîne de valeur globale compétitive. Les Américains se sont réveillés.
C'est ce qu'a dénoncé Carlos Tavares, le patron de Stellantis. Certes, Bruno Le Maire, qui est juste derrière nous, du reste, lui a répondu, mais enfin, il n'avait pas complètement tort, Carlos Tavares.
Effectivement, aujourd'hui, la Chine a bâti une chaîne de valeur compétitive et ça va être assez difficile de la déplacer là-dessus. Les Américains utilisent leur levier, leur force de frappe vis-à-vis des autres pays avec leur système de friendshoring pour se créer des liens, comme vous disiez, une certaine diplomatie, se donner un accès préférentiel avec, ils l'ont fait avec l'Australie, le font avec d'autres pays, un accès préférentiel à des pays qui ont des matières premières. Donc il faut que l'Europe, encore une fois, se dépêche, choisisse de rapidement maintenant de financer des projets de ses propres acteurs européens et de lancer cette diplomatie, avec en plus la régulation qui va avec, parce que l'Europe a un gros avantage qu'elle peut utiliser, c'est son marché. 450 millions de consommateurs qui vont acheter des véhicules électriques. Si elle impose des normes sur d'où viennent les métaux, dans quelles conditions ils sont extraits, eh bien l'ensemble de la chaîne de valeur mondiale devra respecter ces normes. Donc elle a un vrai rôle à jouer et elle peut le jouer, il est encore temps.
Il est encore temps, mais il faudrait qu'on se bouscule, qu'on se réveille peut-être, qu'on agisse du coup un petit peu plus vite. On va rester sur lithium, on va parler après du manganèse, parce que vous êtes vraiment au cœur de toute cette chaîne d'approvisionnement chez Eramet, c'est ça qui est intéressant. Sur lithium, vous avez bientôt, vous n'êtes pas encore producteur, enfin je parle d'Eramet, vous allez l'être en Argentine, et puis vous avez un projet aussi près de Strasbourg.
Absolument. Donc, on a un très gros gisement en Argentine qui est un des plus gros gisements de lithium au monde.
Sur 75 lequel... 000 tonnes, non ?
Alors, là, c'est sur la production visée de lithium d'ici 2027-2028. On commence la première tranche avec 25 000 tonnes qui sera en démarrage au deuxième trimestre de l'année prochaine. Et puis, on est en train de lancer deux phases ultérieures qui vont nous permettre d'augmenter les capacités au fur et à mesure. C'est un gisement extrêmement riche et nous avons une technologie qui est différenciante parce qu'elle est beaucoup plus économe de la ressource. Le taux de rendement est supérieur à 90% alors que les méthodes traditionnelles ont des taux de rendement à peine supérieurs à 50%. Donc on doit pomper deux fois moins pour extraire la même quantité de lithium et on est beaucoup plus soucieux et on préserve beaucoup mieux l'eau, et qui est une ressource absolument rare et vitale dans cette région du monde. Ouais. En Alsace, ce sont des saumures également, mais ce sont des saumures géothermales dans la plaine d'Alsace, qui sont malheureusement beaucoup moins concentrées en lithium qu'on trouve en Amérique latine. Mais compte tenu de la géothermie et du fait qu'on peut coupler les deux, il y a quelque chose à faire. Ça sera un lithium très vert et ça, on n'aurait pas des quantités aussi importantes, mais on peut extraire de façon rentable du lithium des saumures géothermales en Alsace, et nous travaillons dessus avec Électricité de Strasbourg.
Tiens, est-ce que vous avez une petite question, hein? Vous me direz, vous n'êtes pas constructeur automobile. Il faut dans une batterie, il faut mettre combien de lithium dedans?
Alors, une voiture standard, hein, pas les grosses berlines, mais une voiture standard, c'est à peu près 45 kg de lithium, 40
énorme.
Kg de nickel et à peu près 6 kg de cobalt. Par batterie, ça veut dire qu'il faut 5 tonnes de minerais de nickel-cobalt par batterie et à peu près 25 000 litres de saumure par batterie. Donc on parle c'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle ère des métaux, c'est-à-dire que cette transition énergétique va réclamer des quantités énormes de métaux.
C'est d'autant plus
important de les extraire de façon responsable, durable.
Mais comment est-ce que c'est possible? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que regardez la consommation d'eau que vous venez de nous donner. Comment est-ce que c'est possible qu'il y ait une transition durable? Certes, il y aura peut-être moins d'émissions de CO2, et encore, enfin, ça paraît absolument gigantesque que vous nous dites là pour une voiture.
Eh bien, en fait, c'est si vous extrayez la saumure, que vous captez le lithium et que vous réinjectez la saumure dans les salars, vous ne pompez pas la ressource en eau.
D'accord.
Donc tout l'objectif, c'est effectivement de recycler l'eau douce que vous utilisez dans votre procédé et de réinjecter les saumures une fois qu'elles ont été que le lithium a été extrait, de les réinjecter à l'intérieur des salars pour préserver la ressource. Et donc, c'est pour ça que les technologies existent. Elles sont souvent plus onéreuses. Mais le consommateur, s'il veut effectivement répondre à cette transition énergétique et écologique, il va falloir un moment qu'il accepte de payer un peu plus cher des métaux qui soient responsables.
Oui, mais d'ailleurs, on voit bien que, notamment, il y a un petit problème en France, parce que je crois qu'il y a du lithium en France. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a encore une réticence très forte de l'opinion publique par rapport à recréer des carrières.
Alors, la mine a une mauvaise
réputation,
en France et souvent en Europe, qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs dans les autres régions du monde. On est resté un peu sur l'image de Zola, hein, chez nous, on a été très marqué par ça. Et en fait, encore une fois, la mine responsable, c'est possible. On l'a démontré, on le fait tous les jours chez Eramet, avec de l'impact positif sur les communautés, avec de la réhabilitation, avec le respect de la biodiversité. On rend les terres que nous avons exploitées en les réhabilitant totalement avec la même biodiversité qu'elles avaient avant de les avoir exploitées aux populations quand nous sommes passés. Donc, en fait, il y a des moyens de rendre cette exploitation durable. Il faut arriver à en convaincre nos concitoyens.
Vous avez connu une année 2022 quasiment historique. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail sur 2023, du moins parce que vous publiez fin juillet vos semestriels. Il n'en demeure pas moins qu'on voit bien que Eramet a une situation politique compliquée, économique, et que vous avez réussi à remettre d'équerre un peu Eramet. Il n'en demeure pas moins que vous êtes devenu incontournable, Eramet.
Ayant dans notre portefeuille tous les métaux de la transition énergétique, on apporte une vraie solution à la souveraineté de l'Europe sur les sujets dont nous avons parlé. Eramet aujourd'hui est recentré sur l'amont, hein, sur la mine et la première transformation. C'est une société qui est beaucoup plus robuste qu'elle ne l'était il y a quelques années, qui a les moyens de faire des projets. Il faut qu'on continue à être accompagné, mais nous allons de l'avant et nous avons effectivement de nombreux projets de développement. 2023 est une année beaucoup moins porteuse que n'a été 2022.
Pourquoi ?
Les cours des métaux baissent énormément, hein. Au premier semestre de cette année, les cours de nos métaux ont été entre moins 30%, moins 40% plus bas que l'année dernière à la même époque. Donc on a une très très forte baisse des cours, dont peut-être on ne se rend pas toujours compte ici, mais effectivement ça va être une année plus compliqué, mais nous fort de tout ce qui a été transformé chez Eramet, aujourd'hui, on est capable de résister à des bas de cycle.
On peut dire quand même que le lithium va devenir votre priorité quand même.
Le lithium et derrière ça, le nickel et le cobalt pour les batteries.
Oui, vous avez cédé il y a quelques jours Erasteel, qui était un peu l'ultime étape du recentrage d'Eramet. Est-ce que si on regarde aujourd'hui votre chiffre d'affaires, la ventilation de votre chiffre d'affaires en termes de métaux, ça donne quoi ?
Alors aujourd'hui, on a encore donc 5 milliards de chiffre d'affaires. On a encore une bonne moitié qui vient du manganèse. Oui. Le reste sont et du nickel et des sables minéralisés, donc le zircon, le titane, dont on a peu parlé, qui est une petite partie de notre portefeuille. Mais avec justement le lithium qui va démarrer l'année prochaine et tous nos projets également dans le nickel et le cobalt, cette partie-là va augmenter significativement dans les prochaines années.
C'est ça, c'est-à-dire si on se retrouve ici à Aix dans 5 ans, Christelle Bory, le manganèse sera plus quoi, 20-30%?
En tout cas, oui, ça sera un gros tiers de notre activité, mais on aura deux tiers dans les métaux de la transition énergétique.
Tout ça demande beaucoup d'investissement. Comment est-ce que vous faites ?
Eh bien, nous générons plus de cash flow. Ça nous permet de faire nos investissements. Nous avons des partenariats sur les très gros projets avec des acteurs industriels ou des acteurs de la chaîne de valeur. Et puis, nous levons des financements de projets sur des beaux projets. On est capable de lever des financements.
Vous avez des gros projets de décarbonation sur une usine justement, sur une gigafactory à Dunkerque. Ça c'est aussi...
Alors c'est pas de la décarbonation, je pense que ce dont vous parlez c'est du recyclage.
Une forme de décarbonation, enfin...
Absolument,
mais... Transition décarbonée si vous voulez.
Voilà, mais c'est la fin de la chaîne de valeur et qui est effectivement très importante, j'en parlais au début. Toutes ces batteries, il va falloir après les recycler pour évidemment ne pas perdre les métaux et retransformer en fait ces métaux directement en métaux qualité batterie. C'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire extraire chaque métal séparément et refaire une qualité batterie. Nous avons un procédé qui a été expérimenté. L'usine pilote est en cours de démarrage et nous avons un partenariat avec Suez sur l'amont, sur la collecte et la production de la black mass. Et puis nous avons cette usine pilote qui devrait nous permettre de rentrer en production d'ici 2026 sur du recyclage de batteries lithium-ion.
On voit quand même, ça sera peut-être ma dernière question, mais on voit que toutes les entreprises ici avec lesquelles on échange ou alors sur le bateau de BFM Business, vous êtes tous en train de vous repositionner. Il y a vraiment une dimension stratégique très importante en ce moment avec ce virage de la transition écologique. Chez vous, comme vous êtes encore une fois un peu au cœur de toute cette chaîne d'approvisionnement, j'imagine que ça doit... C'est plus la même entreprise, Eramet. Enfin, si ce n'est que c'est l'extraction de métaux. Mais ce n'est pas du tout les mêmes technologies, la même innovation.
Alors, effectivement, ce sont des choses un peu différentes. Je crois qu'il y a un élément que j'ai mis au cœur de la stratégie et qui est absolument clé, qui est la RSE. Ça paraît peut-être
un peu
banal, mais comme je le disais, il est absolument clé de pouvoir extraire ces métaux de façon durable et responsable. Et nous mettons beaucoup, beaucoup d'emphase sur la protection de l'environnement, de la biodiversité, l'impact économique sur les communautés. Et donc, quand vous parliez de la façon de travailler, une des transformations du groupe Eramet, ça a été vraiment de devenir l'acteur, je dirais, le plus responsable du marché pour extraire ces métaux. Et je pense que c'est un facteur différenciant pour l'avenir.
Pardon, une question, je reviens toujours sur la question géopolitique parce que vous faites de la géostratégie parce que vous êtes en Nouvelle-Calédonie. On sait que c'est pas toujours simple, la situation est assez tendue. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que ça va peut-être un tout petit peu s'améliorer? Et puis vous travaillez beaucoup en Afrique, au Gabon, donc là aussi, situation très fragile.
Alors, Gabon, Sénégal, etc., en Afrique, on a appris à travailler en Afrique et je pense qu'on travaille bien. Encore une fois, quand on apporte beaucoup aux communautés qui nous entourent, on est assez intégré et protégé dans ces pays dans lesquels nous sommes. La Nouvelle-Calédonie est un cas un peu à part, et notamment parce que économiquement, même l'année dernière où tout le monde gagnait de l'argent dans les métaux et notamment dans le nickel, les trois acteurs métallurgistes en Calédonie ont perdu de l'argent. ce qui est une exception et qui montre qu'il y a des problèmes structurels sur la filière nickel et métaux en Calédonie et qu'il faut vraiment qu'on s'attaque à ces problèmes structurels parce que l'économie calédonienne ne pourra pas continuer à générer des pertes de façon structurelle dans l'avenir. Donc dans tout ce qu'il faut solutionner en Calédonie, il y a notamment trouver un avenir à la filière nickel calédonienne qui aujourd'hui est dans une impasse.
Vous arrivez à recruter ?
Alors, on arrive à recruter parce que, je disais, on a cette dimension RSE qui attire les talents. Et tout ce qu'on fait, notamment dans les pays dans lesquels nous sommes, l'Indonésie, l'Argentine, l'Afrique, on est vraiment différenciant par notre approche et les talents viennent assez facilement chez Eramet. Je ne dis pas que c'est la guerre des talents n'est pas là, tout le monde cherche les mêmes talents, mais je pense qu'on a un atout qui notamment attire les jeunes et ça c'est un élément très important.
Allez, j'en profite quand même encore une fois. Il y a beaucoup de membres du gouvernement, donc il n'y a pas la première ministre qui a dû rester à Paris. Quel message vous avez envie de faire passer ? Il y a aussi Christine Lagarde, il y a de nombreuses politiques au niveau européen. Le message qu'une chef d'entreprise comme vous a envie de faire passer, c'est quoi ?
Le message,
réveillez-vous, secouez-vous.
Le message, c'est qu'effectivement, je pense qu'encore une fois, notre gouvernement et l'Europe sont en train de prendre les bons virages. Il faut simplement accélérer le rythme.
Ouais.
Et ça, c'est absolument fondamental. On n'est pas aujourd'hui au même rythme que les grandes régions qui nous concurrencent dans le monde et notamment sur les sujets de souveraineté et de défense.
Merci beaucoup Christelle Boré d'avoir été avec nous. Donc la présidente d'Eramet avait du gros projet, on l'a vu sur le lithium, mais pas que. Merci beaucoup de vous être pliée à cet exercice, sachant qu'il fait effectivement 35 degrés à l'ombre. Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci.